Je suis un chirurgien viscéral, c'est-à-dire n'opérant que ce qu'on appelle le mou, dans une petite clinique à la campagne. Et souvent, je me présente comme chirurgien de campagne. J'ai épousé Catherine, que vous allez voir arriver tout à l'heure. Avec elle, nous avons eu 4 enfants qui sont venus ajouter leur vie à la nôtre et puis mariés à leur tour. Ils nous ont donné la joie d'être grands-parents de 17 petits-enfants. J'ai eu à soigner un grand nombre de patients pour des affections graves comme le cancer. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui, après le traitement qui convenait, ont pu repartir, voler complètement de leurs propres ailes et se sentir guéris. Malheureusement, il y en a toujours quelques-uns qui n'ont pas eu cette grâce de retrouver une bonne santé et qu'il m'a été donné d'accompagner jusqu'à leur dernier souffle, puisque c'était un petit peu la mission que je m'étais fixée. Si tu ne peux pas les guérir, reste avec eux. Hier, nous fêtions la transfiguration. Oui. Et je vous propose pour aujourd'hui une relecture de cet évangile, cette page d'évangile de la Transfiguration. Voilà 3 hommes qui ont escaladé avec le Seigneur ce mont Tabor, cette haute montagne. Donc ils sont arrivés probablement bien fatigués, le soleil de Palestine, c'est chaud. Et tout doucement, ils ont glissé dans un sommeil profond et mystérieux. Et quand ils se sont réveillés, ça a été pour découvrir, parce qu'ils ne l'avaient jamais vu ainsi auparavant, ça a été pour découvrir la royauté et la divinité de Jésus dans cette grande lumière qu'il enveloppait, avec Moïse et Élie qui peuvent servir de comparaison avec la foule des saints que nous rencontrerons un jour, non pas au soir de notre vie, mais au matin de cette nouvelle vie qui nous attend, puisque telle est notre espérance. Quelques-uns nous quitteront, surpris en plein vol par une mort solitaire et soudaine. D'autres, en plein sommeil, secrètement, sans un adieu. C'est ce qu'on appelle « Oh, il a eu une bonne mort ». D'autres connaîtront, dans la douleur quelquefois, dans la misère d'une conscience qui s'effiloche, ou d'une carcasse qui n'en peut plus, une de ces interminables fins de vie. Dans la solitude d'une chambre d'hôpital, qui nous font crier « Mais Seigneur, où es-tu ?» C'est là le bout de la vie. Mieux soignés, nous sommes sûrs de vivre plus longtemps dans un espace d'où certains de nos amis seront déjà partis, et notre famille dispersée si elle n'est pas déjà cabossée. Pourtant, ce bout de la vie, c'est encore la vie et c'est une invitation à la célébrer. Est-ce que vous connaissez le refrain de ce chant de l'Emmanuel qu'on peut trouver page 44 dans les nouveaux livres ? La vie s'est manifestée. Je peux essayer ? La vie s'est manifestée, la vie qui était tournée vers le Père. La vie s'est manifestée, et nous vous l'annonçons, Dieu est vivant. J'étais encore étudiant qu'on m'a raconté cette histoire. Alors à l'époque, les hôpitaux c'était plutôt des hospices. On y hospitalisait des gens très simples, pour ne pas dire très pauvres, et souvent des clochards. Et c'est l'histoire d'un clochard qui était en train de mourir sur son lit d'hôpital depuis des semaines, et qu'un vieux copain dit quand même « Marcel est en train de mourir, je vais le voir ». Et il va voir son copain de Marcel avec une grosse bouteille de cognac planquée dans sa poche. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? On sait qu'ils ont vidé la bouteille de cognac à tous les deux. Et voilà que le lendemain, le médecin, en faisant sa tournée, sa visite, découvre un Marcel en pleine forme. Voilà, Marcel et son copain avaient célébré la vie à leur manière et ça avait peut-être eu une certaine action. Alors, ce propos tourne quand même autour de la mort. La mort, c'est un mot qu'on a banni de notre vocabulaire pour le remplacer par un terme beaucoup plus neutre et administratif, qui est « il décède ». Il est décédé, un décès. Alors j'ai été sur Wikipédia pour essayer de comprendre ce que voulait dire le mot « décédé ». Eh bien, ça n'a rien du tout d'administratif. « Décédé », ça vient de « dé », comme on défait, et « cédéré », aller de l'avant. Ça veut dire « décédé », c'est l'action, c'est ce qui signifie qu'on arrête d'aller de l'avant et qu'il n'avance pas, recul, et puis là, pour le coup, c'est une reculade complète et définitive. Nous, les médecins, nous le décrivons comme le terme de l'existence et d'activité biologique. Pour les agnostiques, c'est un point final. Et pour nous, chrétiens, si nous mourons avec le Christ, avec lui nous ressuscitons. De saint Paul, répété plusieurs fois dans les lettres de saint Paul, vous le trouverez assez souvent, même dans la liturgie de l'Église. Pour nous, les bien portants, la mort n'est pas souvent au milieu de nos préoccupations. On est occupé à autre chose. Qui va s'y intéresser ? Eh bien, il y a les gens comme Bernard, comme les philosophes, comme les juristes, comme les théologiens, qui débattent, et vous entendez en ce moment, le débat est très vif et très argumenté par toutes ces personnes qui sont beaucoup plus savantes que nous pouvons penser l'être sur ce sujet. Il y a aussi les soignants, et pas seulement les médecins. Pour moi, soignant englobe toute personne qui, par son activité professionnelle, se trouve soigner des personnes malades à des degrés, à des atteintes de dangers divers. Mais la mort est très mal vécue par les soignants. Très très mal vécue, si mal que très souvent le soignant échappe à la contemplation de la mort qui vient. Et puis il y a nous tous aussi qui serons malades un jour, qui sommes peut-être déjà malades, et nos proches, nos amis, nos parents, nos voisins. Que redoutons-nous alors dans la mort? Qu'est-ce qui nous frappe? Est-ce la perte de notre dignité? Est-ce la solitude? Est-ce la douleur? La perte de ma dignité, qui est souvent invoquée dans le débat actuel, ce n'est pas ma dignité qui me fait homme, c'est parce que je suis homme que je suis digne. Il existe un arrêt du Conseil d'État qui a été rendu très récemment, et qui interdit l'activité professionnelle d'un nain qui s'offrait comme projectile. Les juges ont considéré que la dignité ne pouvait se restreindre à une simple disposition de soi. Il tirait profit de sa disgrâce pour offrir à des gens que ça amusait de s'en servir comme projectile. Eh bien, les juges du Conseil d'État ont estimé que ça n'était pas en son pouvoir, parce que cela atteignait sa propre dignité d'homme. Traiter de manière indigne n'est pas ôter sa dignité à quelqu'un, c'est ne pas la lui reconnaître. On a évoqué avant-hier la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et pour Kant, le philosophe, la dignité est une valeur inconditionnelle, incomparable et inaliénable. Et la solitude alors ? La solitude est une réalité qui renvoie chacun de nous à sa propre attitude, à son être. C'est une épreuve. C'est aussi un état du cœur. Beaucoup de gens s'estiment seuls alors qu'ils sont très entourés. Et ce qui compte, c'est ce sentiment qu'ils ont de leur propre solitude. Qui disait « on meurt seul » ? Je n'ai pas la réponse, je l'ai entendu, mais... Quant à la douleur, si la douleur physique, la douleur objective de certaines évolutions, de maladies cancéreuses en particulier, n'est pas aussi fréquente qu'on le pense, les grandes douleurs, les très grandes douleurs sont le fait de localisation osseuse de la maladie, essentiellement. Il existe des douleurs psychologiques, des douleurs psychiques, qui sont beaucoup plus fréquentes et qui apportent une note d'aggravation à la douleur physique elle-même et qui nécessitent et méritent une prise en charge particulière. Aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons, et c'est une chance, la possibilité de recourir à des médications antidouleurs qui sont de plus en plus efficaces et précises. Quand j'étais jeune médecin, nous avions dans notre trousse d'urgence une ampoule de dolosal ou de palfium, qui sont des morphines, avec un seul dosage qui était assez costaud. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs qui permettent d'instiller goutte à goutte des opiacés, des molécules de morphine synthétique qui sont beaucoup plus efficaces et dont les effets secondaires sur la respiration, sur le cœur, sont beaucoup mieux contrôlés. Parallèlement, nous avons des anxiolytiques, des médications contre l'angoisse, qui permettent un accompagnement, j'allais dire plus facile, aucun accompagnement n'est facile, mais mieux maîtrisé. Et j'en arrive à évoquer les soins palliatifs et l'accompagnement, puisque ces soins palliatifs sont nés en même temps que ces possibilités de traitement. Les progrès des soins en réanimation, les soins intensifs, ont parfois été accusés d'acharnement. Dès les années 50, on a parlé d'acharnement thérapeutique, ce qui faisait redouter aux familles et aux malades qu'on ne leur inflige des traitements sans espoir de guérison, mais qui les précipitait dans un état de douleur et de dépendance terrible. Aujourd'hui, on a tendance à remplacer le terme par « obstination déraisonnable ». J'avais un patron qui, lorsqu'il nous voyait réanimer avec des perfusions, à l'époque nous n'avions que ça, des vieillards qui n'en pouvaient plus, nous regardaient avec un air sévère et disaient « Un vieillard qui ne mange pas, qui ne boit pas, est un vieillard qui meurt, point. » Vous pouvez mesurer le chemin parcouru depuis une cinquantaine d'années sur ce sujet. Dans les années 80, est arrivée cette grande catastrophe, ce mal pandémique du sida. Le sida ne frappait pas les vieillards, il frappait des gens, des personnes jeunes. Et devant ces personnes jeunes, pour lesquelles aucun traitement qui amène à la guérison n'était connu, on a développé petit à petit, mais très rapidement autour des malades du sida, ce qu'on appelle maintenant les soins palliatifs. Parce que voir mourir un vieillard à l'époque, c'était encore une chose acceptable, mais voir mourir des jeunes qui aimaient la vie et qui voulaient la célébrer, ça devenait insupportable. Et ces soins palliatifs se sont développés. Ils existent maintenant, ils sont assez bien connu pour qu'on puisse dire que la moitié des patients qui en ont besoin peuvent en bénéficier. Et nous sommes sur une courbe ascendante en soins palliatifs. Il n'y a pas seulement des unités et des hôpitaux spécialisés comme Jeanne Garnier ou Cognac-Jay. Dans tous les grands hôpitaux ou même dans certaines cliniques, on voit des unités de soins palliatifs se développer. On en voit même de plus en plus qui sont des unités de soins palliatifs à domicile. Quel est le but du soin palliatif? Eh bien, c'est une rupture dans la stratégie des soins pour ce grand malade que l'on sait ce jour-là ne plus pouvoir amener à la guérison. C'est premièrement de lui garder les soins, même anticancéreux, qui sont supportables et nécessaires, de lui offrir des soins palliatifs qui vont s'adresser à la douleur, qui vont s'adresser à certaines formes de désespoir de vivre, qui vont lui donner du confort, qui vont s'occuper de sa nutrition, avec un personnel formé à cela. En nombre suffisant, il faut beaucoup de monde dans une unité de soins palliatifs. Il faut lui assurer, et c'est reconnu depuis quelques années seulement, un accompagnement spirituel s'il le demande. Et pourtant, ça ne suffit pas. Cette attention à la qualité des derniers moments de la vie ne peut pas se faire sans vous, sans nous, sans la famille, sans les amis, sans un entourage qui soit attentif et aimant. L'accompagnement ne peut pas être l'exclusivité des membres du personnel soignant dans un hôpital ou dans un système de santé. Parmi les premières personnes que j'ai eues à accompagner, je me souviens d'une qui était une petite souris qui avait consacré toute sa vie à la catéchèse, au service de l'Église, qui avait été très active et très... Une sainte femme, mais arrivée dans ses derniers jours, ses dernières semaines de vie, j'ai été frappé. Sur sa table de nuit, il fallait chercher la petite icône de la Vierge derrière une pile de bouquins. SAS, vous connaissez ? Voilà. Eh bien, elle, au moment de mourir, elle avait besoin de se distraire. Elle avait besoin de ça, elle me l'a dit tout simplement. Moi, vous savez, les pages d'évangile aujourd'hui, non. Je peux plus, j'ai plus la tête à ça, j'ai besoin de rire, j'ai besoin... Voilà, elle a besoin de rire. Et puis, cette autre femme, qui au contraire était une maîtresse-femme, solide, costaud, 90 kilos sûrement. Elle avait été, elle était réputée, je l'ai appris après, comme une syndicaliste et une communiste acharnée. Elle venait de ranger son mari dans une maison de retraite. Et en fin de course, elle est morte 3 ou 4 jours après. Elle est venue poser sa valise dans la clinique en me disant « J'ai tout raté dans ma vie. » Elle venait de découvrir Jésus. Et elle répétait sans arrêt « Comment ai-je fait pour ignorer tout ça ?» Elle avait tenu jusqu'au bout et le Seigneur était venu l'accueillir, lui rendre visite, juste avant qu'elle ne trépasse. Bien sûr, l'aumônier de la clinique était venu la voir et avait été tout heureux de pouvoir lui donner les derniers sacrements qu'elle avait reçus avec une grande joie, mais et surtout une grande paix. Je suis obligé de citer tout ce qui est en débat actuellement dans la presse, dans les médias, à la Chambre, puisque le président Hollande nous a promis un débat à la Chambre à la fin de l'année sur la fin de vie et qu'il a déjà demandé à divers corps comme l'Ordre des médecins, comme le Comité consultatif national d'éthique, de lui rendre des conclusions. Alors on a parlé des soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, il y a une notion qui avait été développé par Pie XII, on va le revoir tout à l'heure, de soins appropriés. Depuis plus de 60 ans, le développement donc des soins intensifs ont fait apparaître cette notion d'acharnement dont je parlais tout à l'heure, ou d'obstination, et l'Église a été la première à alerter sur le danger d'un acharnement dans des soins desquels on ne pouvait plus raisonnablement attendre d'amélioration ou de guérison. Au contraire, ces soins étaient souvent considérés comme aggravant et accélérant le processus de mort. On a parlé des soins palliatifs, on va parler plus tard de l'euthanasie, de la sédation terminale. Ça vous dit quelque chose ? Ou la sédation en phase terminale ? Ça vous dit encore quelque chose ? Des directives anticipées ? Bon. L'euthanasie et l'assistance au suicide sont au cœur du débat philosophique et politique actuel. On nous a rappelé avant-hier que Pythagore, Hippocrate et Galien s'étaient opposés aux stoïciens. « Jamais je ne remettrai le poison, même si on me le demande. » Et je ne conseillerais pas d'y recourir. Marcozzi, en 75, la qualifie de suppression indolore par pitié de celui qui souffre ou que l'on tient pour souffrant et comme pouvant souffrir de manière insupportable dans l'avenir. Ça n'est donc pas forcément une réponse à un problème immédiat, mais ça devient une réponse médiate. La Congrégation pour la doctrine de la foi, en 1980, la qualifie d'action ou d'omission qui, de soi ou dans l'intention, donne la mort afin de supprimer toute douleur. C'est un traitement de la douleur. Le Conseil économique et social et environnemental, en février de cette année, vient de proclamer la prévention du suicide grande cause nationale. Ça, c'est de février 2013. Le rapport Sicard, qui a été demandé par le président Hollande au professeur Sicard, dit que l'assistance au suicide ne peut en aucun cas être une solution proposée comme une alternative à l'absence constatée de soins palliatifs ou d'un réel accompagnement. Et le Comité consultatif national d'éthique, il y a même pas 15 jours, le suicide assisté et l'euthanasie, il ne faut légaliser aucune de ces pratiques. Et la sédation terminale, Dans le rapport Sicard, elle est présentée comme... C'est une proposition dans le rapport Sicard. Et cela équivaut à la décision d'un geste létal. Létal, ça veut dire qui donne la mort. L'Ordre des médecins, en février de cette année, se saisit de la question et propose une sédation adaptée, profonde et terminale. On ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent dire, mais on le comprend quand ils ajoutent « le médecin peut se récuser et invoquer la clause de conscience ». L'Académie de médecine, 8 jours après, prend la parole alors qu'on ne lui avait pas demandé, et disant « la sédation terminale n'a plus de but pour soulager et accompagner, mais de donner délibérément et définitivement la mort ». Et on l'oppose à la sédation en phase terminale. Les nuances sont faibles, et elles tiennent surtout à la qualité des soignants qui vont avoir à la proposer. Dans les derniers jours de la vie, il s'agit d'adapter très finement aux besoins du patient et de manière réversible s'il le demande, sans volonté de provoquer la mort, des médications qui soient antalgiques, neuroleptiques au besoin, mais qui vont probablement et certainement accélérer le processus de fin de vie, mais sans vouloir le donner. Simplement, la sédation en phase terminale a pour objectif la paix du patient et de son entourage. On y reviendra. Les directives anticipées, elles apparaissent dans ce paysage de la fin de vie. Ce sont les souhaits exprimés par le malade relatifs à sa fin de vie. Ils peuvent l'avoir exprimé à leurs proches, ils peuvent l'avoir écrit, et on distingue dans le rapport Sicard un premier document de portée générale. Un tel disposant de toutes mes facultés, je désire que, lorsque ma fin se rapproche, l'on ne mette pas en œuvre de moyens, ceci ou cela, soit pour accélérer ma fin de vie, soit pour intensifier des traitements. Ce désir, cette directive anticipée, pour être prise en compte aujourd'hui, ne doit pas être plus ancienne que 3 ans. Et puis, le rapport Sicard parle d'un deuxième document que le patient, en entrant en maladie, la personne devenue patiente entrant en maladie, pourrait faire éclairer par ce que ses médecins, ses soignants, vont lui exposer de l'évolution probable de la maladie. Vous allez voir que dans les textes qui seront proposés, de plus en plus, ces directives anticipées seront importantes. Alors, vous avez entendu parler de la loi Leonetti. La loi Leonetti a été votée le 22 avril 2005, après des débats et des concertations qui ont été assez longues, et elle se résume en 6 points. Il s'agit d'accompagner le patient en fin de vie et de lui donner droit à la sédation terminale, à la sédation en phase terminale. Il s'agit du droit pour le patient conscient, en phase avancée ou terminale d'une infection incurable, de décider de limiter ou d'arrêter tout traitement. Ça, c'était l'élément le plus nouveau de cette loi. Ça peut être une procédure collégiale de décision de limitation ou d'arrêt de tout traitement chez un patient inconscient. Décision collégiale entre soignants. Il s'agit de l'interdiction de l'obstination déraisonnable. En principe, le patient n'a même pas à la demander. elle doit aller de soi. De prendre en compte les directives anticipées du patient et d'assurer la traçabilité des décisions prises, c'est-à-dire de les écrire. Je ne vous lis pas la déclaration de M. Hollande dans son projet présidentiel, elle est connue de tout le monde. Elle se termine par « Qui ne peut être apaisé puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. » Le Comité consultatif national d'éthique a répondu à une mission que lui avait confiée le président et a répondu à ces trois questions sur le suicide assisté, sur la pratique de la sédation et sur les directives anticipées. Le Conseil consultatif national d'éthique n'a de valeur que consultative. Il propose un débat public sur la fin de vie et sur la mort volontaire. Il parle du suicide assisté ou de l'assistance au suicide et considère qu'il ne faut légaliser aucune de ces pratiques, on l'a déjà vu. L'interdit de tuer doit rester un principe fondateur. Sur la sédation, on trouve et il trouve aussi que la distinction est floue entre sédation terminale et sédation en phase terminale. Et sur les directives, il propose d'aller plus loin en associant dans les décisions collégiales l'avis des médecins, les directives anticipées du patient et la présence de proches désignés par le patient ou de sa famille. Ces trois points, finalement, sont le reflet d'un débat qui commence à se focaliser sur une zone très étroite où certains tentent d'échapper au mot « suicide » ou au mot de « mort donnée » pour le reporter sur le mot « sédation » et c'est là-dessus que tout va se jouer dans les mois qui viennent. Si le Comité consultatif national d'éthique a rendu cet avis, c'est malgré que sur les 40 personnes qu'il compose, il y en ait 8, je crois, qui ont pensé qu'il était préférable de faire une déclaration à part. Il y avait unanimité chez 32, et cette unanimité a été obtenue parce qu'ils ont pris en compte les expériences étrangères, Hollande, Pays-Bas, c'est-à-dire Belgique et Luxembourg, où depuis des années, les lois existent pour permettre l'euthanasie. Ben vous savez peut-être que beaucoup de Hollandais, de Néerlandais vivant près de la frontière allemande ont préféré émigrer de l'autre côté de la frontière parce qu'en Allemagne, ils ont décidé de ne jamais voter une loi sur le suicide. Mais on les comprend. Puisque du temps des nazis, ils en avaient déjà fait l'expérience. On fait une petite pause. La vie s'est manifestée. La vie qui était tournée vers le Père. La vie s'est manifestée. Et nous vous l'annonçons, Dieu est vivant. Je vais vous parler maintenant de l'enseignement de l'Église et puis de nous dans tout ça. Dans l'enseignement de l'Église, depuis toujours, et le docteur Pialou nous l'a rappelé il y a deux jours, il y a des points fixes qui n'ont jamais varié depuis 2000 ans que l'Église a été fondée par le Christ. C'est la reconnaissance du caractère sacré de la vie de l'homme en tant que créature. Et ça, c'est même un héritage du judaïsme. C'est la primauté de la personne sur la société, La première exception, ça a été Jésus-Christ, qui a été choisi comme bouc émissaire par le beau-père du grand prêtre. Et c'est le devoir de l'autorité de respecter la vie innocente. Alors, quelques jalons. Et je ne remonte pas plus que Pie XII, qui a été le premier pape dont je me souvienne. Pie XII, en 52, parlant de l'euthanasie, dit « Il ne faut pas, sans raison grave, priver le mourant de la conscience de soi. » Le même Pie XII, à un congrès de médecins, « Le médecin n'a sur le patient que le pouvoir et les droits que celui-ci lui donne, soit explicitement, soit implicitement et tacitement. » Et il ajoute « Le patient ne peut conférer plus de droits qu'il n'en possède. » Et il ajoute encore « Le patient n'est pas maître absolu de lui-même. » L'homme, dans son être personnel, n'est pas ordonné à l'utilité de la société. Au contraire, la communauté est là pour l'homme. En 1951, il a à répondre à une question d'anesthésiste. La suppression de la douleur et de la conscience est-elle permise, même aux approches de la mort? Et il répond, s'il n'existe pas d'autre moyen, et si cela n'empêche pas l'accomplissement de devoirs religieux et moraux, oui. Et il ajoute quelques années plus tard, avec le consentement du patient. Paul VI, en 1974, le droit à la vie reste entier chez un vieillard, même très diminué. Un malade incurable n'a pas perdu le droit à la vie. En 1975, au médecin de ne pas renoncer à ce devoir si humain, de l'aider à terminer sa vie avec dignité. Et il avait auparavant déjà réprouvé très fermement l'acharnement thérapeutique. Dans Gaudium et Spes, tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, toutes ces pratiques sont en vérité infâmes. Je vous fais grâce des pratiques. Jean-Paul II a publié en 1994 la charte des personnels de santé. D'habitude, on l'a trouvée à la librairie, mais là, on ne l'a pas. Je crois qu'elle n'a pas été rééditée, mais vous pouvez la consulter sur Internet. Et puis, un an plus tard, Evangelium Vitae, qu'une semaine ici à Paray-le-Monial ne suffirait pas à épuiser dans tout ce qu'elle peut nous apprendre et nous dire de la vie que le Seigneur nous a donnée. Ça a été « Ne tu ne tueras pas », un commandement jamais séparé de l'amour de Dieu. Il y est écrit « L'homme est roi et seigneur des choses et de lui-même ». Vous vous souvenez que Pie XII avait dit « Le patient n'est pas le maître absolu de lui-même ». La décision délibérée de priver un être humain innocent de sa vie est toujours mauvaise du point de vue moral et ne peut jamais être licite, ni comme fin, ni comme moyen, en vue d'une fin bonne. On retrouve les propos du docteur Pialoux avant-hier. Il est aussi dit dans Evangelium Vitae, les arguments proposés concernent d'abord ceux qui mettent leur foi et leur espérance dans le Christ, qui par sa vie, sa mort et sa résurrection a donné un sens nouveau à l'existence de chacun des siens. D'abord, ça ne veut pas dire exclusivement. Mais nous, les chrétiens, nous sommes concernés au premier chef. Et nous dans tout ça? Et moi? Je pense que en ce qui concerne le débat actuel, d'abord, nous ne sommes pas suffisamment formés les uns ou les autres pour pour y participer, et nous pouvons faire confiance à ceux qui représentent la parole de l'Église et de l'Évangile. Nous pouvons aussi faire confiance à l'Esprit-Saint qui peut éclairer les philosophes, les politiciens, les juristes, si on leur donne la liberté d'expression. Et comme médecin ou comme soignant, là je crois que nous avons le devoir, qui n'est pas, il est vrai, toujours respecté, d'être présent à la souffrance de ceux qui se confient à nous. Chaque situation est unique, elle demande un regard, elle demande un doigté et une présence à cette personne et à son entourage. Et que ce regard, que cet amour soit le reflet de l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est pas simple. Il ne s'agit pas de considérer ce devoir qui nous est demandé comme quelque chose de simple. Nous savons très bien que même pour une personne, la même, nous serons amenés à changer de pied, à reconsidérer la position que nous avions la veille ou l'avant-veille. Je vous demande d'ailleurs à tous de prier pour nous les soignants, parce que c'est pas facile de représenter l'amour de Dieu auprès de quelqu'un qui souffre. Il y a une invitation au dialogue, il y a une invitation aux décisions concertées et collégiales, il y a une invitation à écouter et à être présent. Mais finalement, ces mêmes devoirs nous sont demandés à nous tous, qui sommes des proches, des parents, des amis, ou même simplement des voisins. Eh bien, de quoi s'agit-il ? Pour moi, je l'ai souvent demandé à mes confrères médecins, il s'agit de pousser la porte de la chambre dans laquelle il y a quelqu'un qui souffre et qu'on a renoncé à soigner de manière efficace. C'est difficile pour un médecin, c'est aussi très difficile pour tous, rendre visite à quelqu'un dont on sait qu'il va mourir. Mais écoutez ce que dit le malade. La visite que je reçois me dit quelque chose de ma valeur et me confirme dans ma dignité. Je suis quelqu'un. On est venu me voir. Je ne suis plus cette loque qui transpire dans un lit défait. Je suis quelqu'un qu'on vient voir, qu'on vient écouter, à qui on vient raconter une histoire, chez qui on fait entrer la vie. Faites entrer la vie. Donner des nouvelles du dehors, demander un conseil. Asseyez-vous et taisez-vous. Ouvrez une fenêtre et puis fermez-la. Prenant une main, la caressons-la. Les femmes sont beaucoup plus fortes que nous les hommes pour ces gestes de tendresse. On peut s'inquiéter d'un désir d'accompagnement spirituel, proposer une prière, je vous salue Marie, apporter l'Eucharistie, parler avec ceux qui attendent et qui guettent avec anxiété ce dernier souffle de celui qu'ils aiment et qui expire, et partager notre espérance avec eux. Saint Jean nous dit, dans son chapitre 3 de l'Évangile, « Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Qui croit en lui n'est pas jugé. » Le terme de la vie, c'est une nouvelle naissance à la vraie vie. Et c'est important que nous y soyons.